Alors, je vais peut-être commencer par juste raconter comment j'ai connu la peinture de Renan. Donc, j'étais chez des amis, et puis on discutait. Sur la table, il y avait un catalogue de sa peinture, et sur le catalogue, évidemment, en couverture, la reproduction d'une de ses peintures. Et j'ai éprouvé un sentiment très, très curieux que j'avais jamais éprouvé, c'est que je me suis dit qu'il y avait une autorité, enfin je ne sais pas comment l'appeler, dans cette peinture, une force qui était incompatible avec l'autre chose que je ressentais, c'est que je ne connaissais pas cette peinture. Puisque normalement, il pouvait m'arriver évidemment d'éprouver cette force et cette autorité, mais devant une peinture que je connaissais, dont je me disais, tiens, ça doit être machin ou truc, et puis je regardais, oui, effectivement. Sauf que là, le nom du peintre sur le catalogue, je ne le connaissais pas. Donc je me suis dit, mais tiens, qui est-ce? Alors j'ai demandé à ses amis, enfin même un peu en les taquinant, je leur ai dit, c'est quand même, enfin, vous êtes gentils, mais vous auriez pu tout de même, vous le connaissez, qui est-ce, etc. Et ils me répondent, bah, si on a mis le catalogue sur la table, tu crois que c'est pourquoi? Bon, c'est donc pour te le faire connaître. Et il se trouve qu'à ce moment-là, tu avais une exposition à la galerie Claude Bernard, donc, qui est ta galerie, et donc le lendemain, j'y suis allé, et je n'ai pas été déçu. Donc, voilà, ça, c'est, c'est la façon dont j'ai connu cette peinture, et je crois que c'est la seule fois où, je suis certain, où j'ai éprouvé donc ce double sentiment de ne pas connaître et d'autorité devant une peinture contemporaine. Et alors, donc c'est une peinture qui est... C'est très difficile de parler de peinture, évidemment, de cette façon, surtout à bâton rompu. J'ai pas écrit là-dessus. Enfin, j'ai écrit d'autres fois dessus, mais je vais pas vous lire un de mes textes. C'est une peinture que je trouve à la fois très puissante et effusive. C'est une peinture qui a surtout une double qualité. Enfin, on pourrait la voir autrement. C'est qu'à la fois, il y a chez Renan une connaissance très grande de l'histoire de la peinture et pas une connaissance de l'histoire de l'art, une véritable connaissance de la peinture. Et de l'histoire de l'art, mais aussi une connaissance très très concrète, très vive et très vécue de chaque peinture, enfin pas toutes les peintures des grands maîtres évidemment, mais de beaucoup de peintures, jusque dans le détail, et qui est une connaissance de peintre, c'est-à-dire la connaissance de quelqu'un qui est capable de reconnaître au plus petit détail la peinture, pas seulement d'un maître, mais d'un de ses élèves, en se posant des questions qui, moi, me dépassent, qui sont des questions à la fois de couleur, d'empattement, en disant, oui, mais là, ça peut pas être lui, il aurait pas fait un truc si con, non, là, etc. Et il se trompe pas, en général, et c'est assez stupéfiant quand on y assiste. Et donc, c'est une peinture à la fois très savante, on peut dire, mais pas du tout, justement, une peinture érudite. C'est-à-dire, ça n'est pas une peinture qui fait des références ou des clins d'œil. C'est une peinture qui a assimilé un certain nombre d'œuvres de l'histoire de l'art et qui, d'une façon, je crois, très effusive et très personnelle, fait recimenter tout ça dans une peinture contemporaine qui est la sienne et qui, je crois, très très signée. Voilà. Alors, en plus, il se trouve qu'une amitié donc est née entre nous, ce qui à nos âges est précieux. Voilà. Une amitié profonde et avec des connivences en plus, je crois, liées à nos travaux. Enfin, qui me touche beaucoup. Alors la discussion là sera à bâton rompu. On n'a pas préparé cette discussion à part quelques questions. Et
j'ai pas eu le temps. J'étais en train d'écrire le texte qui a été lu magnifiquement jusqu'à avant maintenant. Mais j'avais pas le temps de préparer cette rencontre.
Et du coup, c'est ce que je crois aussi, c'est-à-dire que, au fond, d'abord les peintres, on peut l'occasion de parler de peinture, et puis c'est pour tout le monde quelque chose de très délicat. On le voit quand on lit souvent, justement, ceux qui ont écrit sur tel ou tel peintre. Beaucoup d'artistes, et c'est tant mieux, de poètes ou d'écrivains au XXe siècle ont écrit donc avec ou sur tel peintre de leurs contemporains. Et ce qu'il y a parfois de décevant, enfin ce qui est compliqué, c'est qu'on se dit parfois il pourrait parler d'un autre, on est un peu embêté, même si c'est intelligent, bien écrit. C'est donc pas, je dis pas ça pour les disqualifier, ça veut dire que c'est très difficile. Et c'est très difficile aussi, je pense, pour un peintre de parler d'une chose qui est à la fois liée au discours, d'une certaine manière, la peinture, mais qui est enfin une chose muette. Donc voilà, le mieux est une discussion à bâton rompu dont sortiront des choses sur la peinture de Renan et sur la peinture en général. Alors je vais commencer d'une manière un peu abrupte par une citation que j'ai trouvée très belle de Malraux, puisque je relisais l'espoir, et puis ça m'a servi d'ailleurs là dans l'intervention précédente, dans un dialogue qu'il y a entre un marchand d'art, assez tard dans le livre, au moment où Madrid va tomber, et donc un des personnages principaux du livre, Et ce dialogue est très beau et porte sur beaucoup de choses, mais notamment sur la peinture. Et à un moment de ce dialogue, il y a ces deux répliques. Dans les églises du Sud, où l'on s'est battu, j'ai vu en face des tableaux de grandes taches de sang. Les toiles perdent leur force. Et l'autre de lui répondre, il faudrait d'autres toiles, c'est tout. Alors quelle toile pourrait tenir face aux taches de sang?
Heureusement que... Non, évidemment, c'est évident que si tu vois le sang jaillir, tu n'as pas l'idée de voir la peinture. Il y a des tableaux qui je pense, puisqu'il y a des peintres qui ont vu Géricault qui voit des pendus à Londres, les exécutions étaient publiques, hein, quand même pendant très longtemps, et autant la foule se pressait pour voir les salons de peinture, elle se pressait aussi aux exécutions. Je pense que ces visions de hantes, c'est atroce, et je pense que des tableaux, certains tableaux, on pense évidemment à Goya, qui disent la même horreur, peuvent, quand bien même ils disent cette horreur-là, il y a une douceur qui peut... parce qu'on ne peut pas contempler un cauchemar. Le tableau permet de contempler ce qui serait un cauchemar. Mais après coup, évidemment, ça va de soi. Ça me fait penser à... Il y a un livre que... Alors j'étais dans la librairie à côté de l'atelier, librairie Nord-Est à Paris, et tout d'un coup je me dis, tiens, c'est bizarre, parce qu'à l'époque il y avait la vente d'Oramar, l'exposition Picasso d'Oramar. Je dis, c'est bizarre ce petit titre. Pourquoi utiliser ce provençalisme, ou je sais pas quoi, ou cette façon de mal parler comme moi. La peinture à Dora. Je dis, tiens, c'est bizarre, la peinture de Doramar. Bon, François le Lyonnais, édition Les Chopes, jour. Donc c'était les souvenirs de François le Lyonnais qui a été interné à Dora. Et l'ouverture du livre, donc première page feuilletée dans la librairie, ça commence par il raconte l'appel. Et lui, donc, contemple, enfin, se raccroche au paysage au-delà des barbelés et décrit la colline enneigée, et puis associe ce souvenir à des souvenirs de tableaux. Et après, la suite du texte. Dans la suite du texte, il raconte comment, loin de tout tableau, il raconte les tableaux qu'il aime à ses co-détenus. Et donc, voilà, c'était juste pour mettre dans cette question qui... Peinture, guerre, comment on témoigne, comment... Enfin, voilà, par rapport à côté de ce texte, voilà, je voulais juste évoquer ce très court texte de Le Lyonnais, c'est ça ? Puisque Patrick est là, il vérifie.
Oui, donc tu dis une chose sur une sorte de hors champ, c'est-à-dire si la peinture peut peindre aussi l'horreur. Enfin, il y a des exemples d'une certaine manière, enfin de deux manières. Elle la peint hors champ, c'est-à-dire soit pour survivre, enfin pour on regarde la cime des arbres, soit le geste même de peindre déplace l'horreur de telle façon qu'au fond quelque chose de l'horreur restera hors champ. Et en somme,
être absolument présenté, mais c'est une question de temps. Ce qui est touchant dans ce qui a été lu par Michel Cessé, c'est que les même les écrivains, après, ils écrivent après. Le souvenir de la Colima, c'est écrit 10 ans après. Dans Au milieu de l'horreur, tu disais... Alors, sauf quand... De toute façon, on écrit, si on a les moyens et qu'on peut, on va écrire des lois, on va écrire des... Mais alors, avant de venir, il y a un ami qui m'a montré, il a chiné des carnets de la guerre 14. Et c'est absolument poignant de voir le gars. Il avait quelques moments de repos et il a... Donc tu vois des aquarelles avec des soldats, un canon, un truc. Il s'est mis... il a composé Il a fait ça... Il a essayé de contempler au moment où... Alors que c'est un... Mais t'as pas le temps. Donc je pense que le grand... Enfin, Alfred, notre camarade Alfred, a eu le temps d'écrire un journal, de faire quelques notes, souvent tous les 4 jours, parce que c'est quand il avait un moment de liberté, il pouvait. Enfin voilà, donc en fait là. Oui, parce que déjà moi je vois en peintre, et parce que quand je lis ce truc, je fais déjà un contresens, c'est que on propose de voir une tache de sang, est-ce qu'un tableau tiendrait à côté ? Et moi tout de suite je pense à peindre un tableau en même temps. Mais peut-être que ça console l'idée de. Si on assiste à quelque chose de. D'insupportable, ça, peut-être l'idée qu'on va le. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai jamais vu qu'on a. Enfin, on n'a pas vécu la guerre. Donc voilà.
Et justement, alors, en venant sur deux de tes peintures qui sont ici, par exemple, Exorde, qui est pour ceux qui ne connaissent pas le titre, la peinture qui est à droite, donc cette peinture obscure où il y a deux corps, l'un qui se tient comme ça accroupi et qui tient donc l'autre corps dans ses bras. C'est un tableau très, très troublant parce qu'évidemment, il nous rappelle beaucoup de gens, il fait penser, enfin ceux qui en tout cas ont un rapport à la peinture, au moins à une Pietà. Donc on pense, on a comme de manière subliminale, comme ça, une structure, disons, élémentaire qui fait penser à celle de la Pietà. Et en même temps, alors ce qui est justement pas du tout la Pietà, c'est que le visage, le trouble qu'il y a dans le tableau fait qu'on est pris dans une ambiguïté qui est presque sans retour ou qui demande au spectateur à décider lui-même si, au fond, d'abord, le genre des corps n'est pas très stable, mais en plus, l'objectif de l'un ou de l'autre paraît curieux. C'est-à-dire, au fond, pour le dire simplement, est-ce que ce corps qui est au-dessus est en train de dépouiller un cadavre, de le tuer, de l'étrangler, ou au contraire, de le soigner, de le chérir ? Et de la même façon, c'est un peu différent dans Fouille, qui est le petit tableau qui est sur la droite et qui est une esquisse, en fait, pour de plus grands tableaux que tu as fait exposer la fois dernière à la galerie. Fouille, là aussi, alors d'une autre façon, a de façon subliminale une crucifixion, sauf que la crucifixion, alors là, prend un sens contemporain alors, plus clair, celui-là très puissant, c'est qu'une simple fouille policière, au fond, ou autre chose, on n'en sait rien. Mais en tout cas, on peut penser à ça, vient se superposer à une figure de supplice ancienne que nous connaissons. Donc,
mais en fait, oui, il y a plusieurs tableaux. En fait, j'espère qu'il y a, enfin, ça vient de plein d'autres tableaux que je continue. Je ne parle pas de série. En tout cas, quand il y a un paradoxe, il y a deux solutions. Soit on résout, on en fait un truc très simple, très, très clair, qui ressemble à un communiqué de presse. Je vais revenir sur l'époque du communiqué de presse. Et soit on le maintient, mais fermement. Pas que ce soit une peinture douteuse. L'idée, c'est de qui est toujours ces. Puisqu'on va raconter une histoire, que même des histoires contradictoires soient. Et opposées, que ce paradoxe soit fermement maintenu, plutôt qu'un doute solide comme un caillou dans les chaussures. Et après, ça, un tableau amène à parler, invite les gens à. C'est pour ça aussi que ce matin, je voulais juste amener à voir. Que vous voyez les tableaux et que après voilà que ça trotte un peu dans la tête, qu'après vous les revoyez, tiens j'ai pensé ça et voilà.
Mais pas pour faire un micro. Il y a des différences d'honnêteté entre l'un et l'autre, enfin je me fais l'avocat.
Ah oui, bien sûr.
Mais enfin je comprends ce que tu veux dire par l'intelligence de communiqué de presse ou
non c'est le communiqué de presse, c'est tout le monde dit voilà. Me demande d'où êtes-vous parti, vous allez vers où, c'est quoi la feuille de route, votre programme, et vous avez voulu faire ça, et
oui.
Quelle est votre procédure
en même temps, la fouille picturale.
Oui, mais
après, il y a des clartés. A une clarté quand même. Alors, on peut en faire sans doute plusieurs lectures, mais il y a quand même une clarté très grande dans la fouille. Il y a quelque chose qui rappelle la crucifixion, et il y a quelque chose qui rappelle.
C'est tout le contraire, mais c'est maintenu fermement, tout ça. Et pas.
Oui, ça, je suis d'accord sur ce que tu dis, notamment pour l'autre tableau, de comment maintenir de façon ferme une équivoque.
Mais pas non plus dans. Enfin voilà, que c'est pas un proverbe normand.
Oui.
Je pense que comme on est dans le sud de la France, il n'y aura aucun normand vexé là. En Normandie, je parle de l'hésitation languedocienne.
Sans détruire. Et pour en venir à la guerre, donc, de manière plus proche, je disais tout à l'heure, par exemple, en citant, enfin, j'avais dans la tête Autodix et d'autres, c'est-à-dire que pendant les dernières séquences guerrières est apparue une. Alors, Il y a eu d'autres périodes où il y a eu ça aussi, une peinture de témoignage. Mmh. C'est-à-dire qu'en tout cas, elle est devenue prégnante, elle est devenue massive. Avant, on trouverait quelques cas.
Et il y a encore le cas Goya.
Oui.
Alors des gens imaginent que Goya était le photoreporter. Il a entendu puissance d'imagination. Il a vu des choses, puissance de la mémoire, le réalisme. C'est comme chez Courbet, c'est la force d'imagination. C'est-à-dire avoir vu un truc, se rappeler d'une autre, et toujours composer. Et alors, voilà, Goya, c'est le peinture de guerre, Goya, quoi. Ça. Et hélas, ces images, elles sont, sont actuelles dans 100 ans.
Mmh.
Et je t'ai coupé.
Non, et justement, ça me fait penser à autre chose. Quand tu dis ça, donc imagination, tension, etc., moi, ça me fait songer à une chose que tu dis souvent. Tu dis, lorsqu'on peint, même quand je fais un portrait, donc où là, par définition, la personne est dans la pièce, en tout cas c'est souvent le cas, tu peins les gens quand ils sont là, tu dis, je regarde, mais je me tourne. Alors le moment où je me tourne, je ne vois plus la personne, donc il y a un trou noir entre
le monde est perdu, c'est à côté. C'est un monde à côté de. Donc il faut tout réinventer. C'est comme pour parler de portrait, le meilleur exemple, c'est parler de cette anecdote, je l'avais déjà racontée. Quelqu'un voit Corot sur le motif, Corot peignait un jour, à moitié sur le motif et après en atelier. Quelqu'un le croise, il dit magnifique maître, tout ça. Mais le lac, il n'est pas devant nous. Et Corot lui dit, mais je l'ai vu en venant. Donc, oui, c'est ça le réalisme, c'est la différence du naturalisme, c'est faire la carte à l'échelle 1 de la Chine. C'est un peu toujours réinventer, puissance de Courbet, tout ça. Mais on reparlait des peintures d'histoire. Quand au début de ton texte, là, tu parlais des peintures mythologiques, après des. Oui, il y a eu toute une histoire, il y a des choses admirables des peintures de bataille. Leur peinture, soit scène mythologique ou scène de l'histoire romaine. Après, et d'ailleurs, c'est aussi lié à une histoire du portrait. On peint les grands, on peint leur victoire. Et donc, c'est un genre imposé. Au XVIIIe siècle, le mec qui refuse déjà, le grand geste héroïque, le grand héros du simple, c'est Chardin, tu vois. Après, il y a des choses absolument. On commémore, donc c'est marrant. Il y a des tableaux comme la bataille de Lépante, les Tintoret, Jacopo, Domenico, j'adore ces tableaux. T'as des tableaux très intéressants, le Véronèse, qui est allégorie de la bataille de Lépante. On peut faire une allégorie de bataille. Donc on voit les gens qui ont gagné, les doges et les trucs et tout ça. Les gens qui remettent les clés, toujours les seigneurs, les vaincus et les vainqueurs. Et puis, comme dans un blason, une petite scène qui surplombe, une scène vue de très loin de la bataille. C'est encore une autre façon de montrer. Il y a un autre tableau auquel je pense comme ça. Pour l'instant, je sors les souvenirs. J'y avais pas pensé avant, mais c'est en t'écoutant sur les. Déjà, les tableaux commandés par les vainqueurs, il y a plein de. Ça me vient comme ça. Le tableau que j'adore, c'est les lances. La reddition de Breda de Velázquez, qui tout simplement prend une gravure italienne qui existe 50 ans avant. C'est pour une autre bataille, je crois. Il reprend la même composition, et après il y a un délice de détails. Et après, il y a une puissance du visage, et une attention de portraitiste, de conteur, un paysagiste, sous Velázquez, voilà. Donc ça c'est, moi je me délègue, j'adore ça. En fait, je m'en fous que ce soit une bataille, Et peut-être que je.
Voilà. Et alors justement sur cette question, tu t'en fous que ce soit une bataille. Mais il y a une phrase que tu as prononcée un jour et qu'on a répétée plein de fois et qui t'agace, mais qui a à voir avec ça. Tu as dit un jour, on disait mais c'est marrant dans vos peintures, il y a des choses un peu religieuses, crucifixion, etc. Et tu as dit je ne peins pas des sujets religieux, je peins des sujets de peinture. Et la bataille est un sujet de peinture. Mais qu'est-ce que c'est un sujet de peinture, justement? Quand tu dis « je m'en fous », au fond, qu'est-ce que c'est
ce sujet? C'est comme le lac que Corot a croisé avant de s'installer devant le paysage. Et c'est déjà un sujet de peinture, c'est ce qu'on croise déjà quand on se déplace, quand on vient... On passe du village, on traverse le pont, enfin, il y en a partout. C'est une infinité de nuances qui sont dans le monde sensible et qui sont quand même notre... C'est un truc dont j'ai envie de... Parce que ça me donne envie de peindre. Ou alors j'adore contempler ça et j'ai envie de le rendre. Mais si je le rends, tout est perdu parce que ça... C'est pas la même. C'est même pas la même.
Qu'est-ce qui fait que dans un sujet.
Un sujet de peinture, c'est.
En allant au plus proche, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que. Puisque, bon, là, c'est la guerre, on pourrait parler de la crucifixion ou d'autre chose. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que la guerre, en soi, ou le conflit.
Et en plus, là, c'est.
Qui est un sujet de peinture.
Oui, la reddition de Breda, donc, c'est déjà. En fait, c'est un théâtre. Et en fait, le théâtre. Donc, c'est dans une scène. Alors, en plus, théâtre sur un paysage. Donc, c'est. C'est un jeu de regard, de forme, de volume, de... C'est plein de possibilités de composer. Mais là, ça va entre les jeux de regard. Déjà, ça, c'est une chorégraphie dans le tableau. Mais en plus, c'est un paysage, des formes, tout... Pour moi, en fait, ce tableau est très proche des Poussins, des premiers Poussins, où tu as des personnages en premier plan. Donc, un espace où tu peux te perdre, mais au premier plan. Tu vois l'inspiration du poète où... Un peu moins une Arcadia Ego, des infinis au premier plan, et après qui partent en fugue et qui se conjuguent avec des infinis derrière et tout ça, donc des jeux d'espace. Voilà.
Oui, mais la guerre.
Mais c'est la guerre, ça la peinture.
Mais la guerre. Ben, la guerre, même si c'est ça. Comme la crucifixion, à la rigueur, je comprends. C'est-à-dire, on peut se dire en tant qu'athée que c'est un sujet de peinture et que, comment dire, dans ce tableau, pour le dire, tu vois, par exemple, très simplement, d'une façon extrêmement intelligente et concrète, tu fais coller une image ancienne, pour une part démonétisée, mais encore, enfin,
c'est un symbole. Non, la crucifixion entre un truc Saint-Sulpicien et une crucifixion de Velázquez ou une crucifixion de Rembrandt, on parle pas du tout de la même chose.
Oui. Mais sauf que là, justement,
non,
c'est
version...
pas tout à fait une crucifixion.
Ou la fouille.
La fouille.
Oui, c'est une crucifixion qui tourne le dos. Mais
oui, mais pas seulement. Ils sont deux l'un sur l'autre. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
Voilà. Tu peux reprendre.
Non, mais il y a là un point très. Enfin, je trouve. Très compliqué, enfin je sais que c'est embarrassant, je sais pas du tout moi comment je répondrai à cette question, hein. C'est ça les. Mais moi je suis pas peintre, tu vois.
Mais t'es spectateur.
Oui, oui, oui.
Alors comment
tu interprètes ? J'ai ma petite idée, mais.
La peinture c'est un test de Rochard amélioré. Hein.
Et là, si tu veux. Ça met en relation avec une autre phrase que tu disais la fois dernière quand on était à l'atelier, tu dis je voudrais une peinture. Qui parle, mais qui soit dur comme une pierre. Alors, dur comme une pierre...
Je l'ai expliqué. Avec le
voilà. Mais qui parle.
Mais oui, parce que ça parle.
Or, ça parle.
Oui, ça fait parler aussi, les gens. Et voilà, et puis...
Pas seulement. Pas seulement, c'est-à-dire que la fouille...
Enfin, je voudrais que la peinture ait les qualités là. Que j'ai pas là, à l'instant, pour répondre, te répondre. Mais ça, c'est encore une façon dilatoire. Bon...
Non, mais je veux dire, pour le dire simplement, c'est la fouille, on peut par exemple, on pourrait sans ventriloquer cette toile dire, c'est une peinture qui nous dit la forme moderne du supplice est policier, enfin, genre, tu vois, voilà, avec une forme de la contrainte.
Tu l'as dit. Ça, ça parle.
Oui, mais alors.
Et revenons. Non, parce que je pense que sur le. L'idée de la guerre, donc avec Goya, on a lancé le truc. Il y a Callot aussi, Jacques Callot, les gravures de Callot.
Les horreurs de la guerre.
Mais voilà, il y a les horreurs de la guerre, il a certainement vu des choses, ou Géricault, mais il est supplicié de Géricault. Il va. Mais voilà, parce qu'on confond toujours un peu les peintures de bataille maintenant, parce que les gens confondent tout, prennent Artus Bertrand pour un paysagiste, et croient que Goya est un reporter de l'agence Magnum. Donc, c'est un peu. Et après, on nous pose des questions, puisqu'on fait ce truc absolument absurde qui est de peindre. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous. Et comment vous peindriez? Vous avez vu à la Biennale de Venise, on peint un truc qui va parler de ce qui se passe actuellement
femmes, les hommes, il y en a partout. Et comme si on devait tout de suite être les... l'agence. Alors, comme un tableau, en général, ça vaut plus cher qu'une photo. Mais pas toujours, hein, heureusement, parce qu'il y a d'excellents photographes et des trucs énormes. Et voilà. Et en plus, il y a ce mélange, cette vieille querelle. Au 19e siècle, on énervait tout le monde avec la querelle du dessin de la couleur, parce que ça s'est arrêté après Ingres de la Croix, de toute façon, Manet et Cézanne ont tout résolu, tout ça. Et l'homme fait encore photo, comme dans les années 20, abstrait figuratif, ou voilà, toute peinture, bonne peinture est abstraite. Et donc on nous demande, enfin voilà, on demande, si, il y a quand même une, l'époque voudrait eh ben, qu'il y ait une plus-value à la peinture, à la photographie, une plus-value reportage. Picturale au reportage. Quoi.
Oui, mais alors justement ça. Là-dessus...
alors que, comme tu le disais, les gens, on ne peut pas composer dans les moments d'effroi, on garde ses forces, on prend quelques notes, donc c'est déjà... et nous on n'a pas vécu ça. En plus, peindre, ça suppose être peintre, ça suppose un atelier, des toiles, des machins, des bidules. La seule liberté, c'est quand on est en, enfin, liberté. S'il y a mis d'énormes contraintes, c'est c'est une phrase de Goya. Un bout de charbon me suffit. C'est avoir le carnet, quoi, comme avaient les poilus dans les tranchées. Donc c'est voilà. Mais donc la peinture, c'est toujours. Après, la question par rapport à la guerre, c'est la question du monument. De quoi se souvient. Si je, alors l'exemple de Picasso est énorme, comme l'exemple de aussi de Courbet. Parce qu'on oublie toujours la première peinture d'histoire de Courbet, qui un tableau au Grand Palais, c'est les pompiers, l'incendie. Qui en même temps, sa façon de penser la peinture hollandaise, je sais pas, il est peu reproduit ce tableau. Et donc où en étais-je? C'est donc Picasso, Guernica, avant la guerre. Après la guerre, le charnier. Alors là, c'est la honte, parce que je ne me rappelle plus. En plus, c'est écrit dans le tableau. Monument aux Espagnols ou aux communistes espagnols tombés pour l'Espagne ou pour la France. Je ne me rappelle plus. Alors, oula. C'est là qu'est celui, le tableau dont le titre est délibérément le monument. Enfin, ben, j'oublie. Ouais. Mais en fait, pour moi, le vrai monument, c'est le charnier. Parce qu'il répète la décision, enfin il répète, il renouvelle, c'est-à-dire que là, donc c'est pas une répétition, et sur la décision énorme de Guernica, qui fait revivre aussi la décision énorme de Courbet quand il peint l'atelier. C'est-à-dire que Courbet, pour rompre avec toutes les peintures qui célèbrent les conquêtes napoléoniennes, bon, je mets Géricault à part, parce que là, le soldat. Géricault, sa façon de peindre la guerre, c'est un portrait. C'est l'homme à cheval blessé qui. Tu vois les cuirassiers blessés qui. Bon. Puis après le radeau de la Méduse, mais ça, allégorie. Et donc, bon, c'est toute l'époque où on célèbre enfin, voilà, toutes les victoires napoléoniennes. Et Courbet, il peint tout simplement la vie de son atelier. Allégorie réelle de cette année de ma vie en peinture. Il ramène. Au format de la peinture d'histoire, ce qui se passe dans son atelier, intimité. Et en fait, Guernica, c'est dans une maison, vous voyez la lampe, soleil brisé, un cheval et deux bonnes femmes. Enfin, l'horreur, quoi, l'effroi. Et le charnier, parce qu'on voit toujours, bon, le charnier, c'est un tableau qui crie, on voit les très proches aussi des nus, où c'est des nus. Il y a le côté cubiste, donc ce serait en fait un aspect formel pour toujours rendre le volume, il tord. On pourrait se dire que ça n'exprime même pas une douleur. On peut voir ça aussi, les nus d'après la guerre, comme la gamberge cubiste, mais de plus en plus libre, quoi, de faire des facettes. Mais c'est aussi l'expression d'un cri, évidemment. Et quand on voit le charnier, c'est à peu près la même façon. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que au dessin, c'est un tableau où il y a des réserves. Donc on croit que c'est un paysage, mais en fait, c'est une nature morte. Une table, une nappe, deux pichets. Et donc, en fait, il refait une nature morte, une vanité espagnole, quoi, ou hollandaise, un bouquet, un miroir, un crâne. Sauf qu'il ne va pas mettre le. Donc, de manière très subtile, pour prolonger les rythmes. Et donc, c'est déjà encore un intérieur, une scène qui concerne chacun dans chaque maison aussi. C'est. La vanité, c'était, en général, c'est bon. Là, c'est un tableau. À la fois, la vanité, souvent, c'était un tableau de vanité. C'était pas forcément des grands tableaux. C'est un tableau qu'on pouvait prendre sur le bras. C'est un tableau d'intime, qui parle d'une intimité, qui s'adresse à une personne qui va le contempler, le méditer. Et en même temps, il en fait un monument. Donc, tableau assez grand, mais pas colossal comme les Demoiselles d'Avignon ou le Massacre en Corée qui viendra après. Et on a fait un tableau de 2 mètres, quoi, comme ça. Enfin, je ne sais pas les tailles exactes. Et en fait, c'est plutôt qu'il descend. Enfin, il ne met pas le crâne, il met un massacre dans une maison. Ça, c'est un tableau pour quelqu'un qui est contemporain de la guerre. Il le fait, je pense, en 45-46. Il le fait après. Comment... C'est dur de... Je pense qu'il a... L'idée est venue lentement. Il faut que ça mûrisse. C'est dur de... Et c'est rarissime, les peintres qui arrivent à faire ça. Arriver à trouver la forme juste, enfin voilà, pour dire la guerre.
Et tu as eu l'air de dire, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre, mais j'en suis pas sûr. Quand tu parles de rythme, à un moment je me suis dit, bon, on en a déjà parlé ensemble. Donc tu, par exemple, quand j'arrive dans ton atelier et puis qu'il y a une toile blanche où tu as mis quelques grands traits, etc., et on voit déjà quelque chose apparaître, et tu dis, oui, là ça va, j'ai collé les rythmes. Donc.
Des fois ça tient, des fois ça tient pas.
Absolument. Mais là, j'ai
ce qui est touchant dans le tableau de Picasso, c'est que dans le charnier, c'est que tu vois en réserve tu vois comment il a cherché en fait. Tu vois des traces de fusain, et après, je pense que c'est venu. En plus, alors voilà, on dit toujours, il y a toujours une idée reçue sur Picasso. Alors tout le monde te dit Picasso, je cherche pas, je trouve. Après, quand on voit bien sûr qu'il trouvait tout le temps. Mais en même temps, il cherchait tout le temps. Donc on pourrait dire exactement l'inverse. Je trouve pas, je cherche. Quand on voit le film de... C'est Woutin avec le Clouseau, là. C'est sans arrêt. Ça. Et donc tu vois aussi le travail de l'avènement de cette idée. Ça se forme, le charnier. Je sais pas, tu as l'impression d'assister en voyant le tableau, au temps de l'avènement de ce monument. Quoi. Et ça, voilà, je trouve que c'est un des grands tableaux de...
Oui.
D'après-guerre, en fait, c'est ce qu'il y a des tableaux de guerre. Parce que même ceux qui décrivent des batailles, c'est que de. Entre avoir l'atelier, les pinceaux, le machin, c'est comme une petite exploitation, quoi. Agricole. Donc tu peux. En pleine guerre, tu transformes ton tracteur en engin kamikaze. Oui. Mais t'as pas le temps de vendanger, quoi.
Mais alors,
l'atelier, c'est pareil.
Tu vois, pour. Comment dire, pour enfoncer le clou pas apporter la contradiction, mais par rapport à ce que tu disais, disons, de la requête qu'on aurait aujourd'hui de peindre une actualité, genre la Syrie, ou j'en sais rien, etc. Bon, Picasso, Guernica, c'est l'actualité.
Oui, et là, c'est un...
C'est Malraux, quoi.
Ouais.
C'est l'espoir.
C'est rarissime. C'est des trucs... Le massacre de Corée, c'est 2 mois après. J'aime autant Guernica, ce tableau.
Oui, moi aussi.
Et Monument... C'est l'actualité, mais c'est là où Picasso, c'est énorme. C'est cette décision de marquer quelque chose. Voilà, c'est pas la peinture qui prendrait une pause, quoi. Au sens, il n'attend pas, il n'a pas le temps. C'est l'urgence. Mais c'est toute la gamberge du cubisme qui c'est la rencontre d'une grande pensée formelle avec une urgence et une invention exceptionnelle. Ça, c'est rarissime. En revanche, Les Demoiselles d'Avignon, qui est un tableau énormissime, et Les Grandes Baigneuses de Cézanne, sont faits dans l'urgence de changer quelque chose parce que ça tient. Parce qu'ils ne se sentent pas tenir debout par rapport. Ça ne va pas, il faut ça correspond. Parce que comme les tableaux, c'est pas le monde, et que le monde, c'est Cézanne et Picasso, c'est deux fous de contemplation de la vie, quoi. C'est des regardeurs, des gourmands ils sentent qu'il faut toujours transformer, et ça va pas, ils changent. Et c'est la révolution que sont les Grandes Baigneuses de Cézanne, ou chaque tableau de Cézanne, ou Les Demoiselles d'Avignon sont faits dans une urgence plus lente. Donc après, je pense qu'il y a un contresens qui est fait. C'est de dire, Picasso, il a réagi à l'actualité, parce que c'est bien sûr, c'est le rêve de tous. Mais ça, il faut faire ça avec. Alors ça se fabrique. On dit, oh, maintenant les gens donc ils font l'équation. Ah, ils parlent de.
Mais,
alors je dirais, il parle de ce qui nous heurte, qu'on voit à travers la télé. Oui. Après, il y a toute la gamberge après sur les souvenirs apportés par la télé et tout ça, ou les souvenirs actuels. C'est-à-dire que. Et donc, il y a toujours cette équation. Hein, on parle de l'actualité, donc c'est bon. Donc c'est le... Et après, il y a une petite rouerie formelle, et là, c'est.
Oui. Alors, c'est rare, je le dirais autrement aussi, parce qu'on peut le. Il se trouve que donc Picasso, quand Picasso peint ce tableau, il existe une idéologie, disons, unificatrice, qui était le communisme. Mm. Il existe aussi, disons, une certaine clarté. On voit bien qu'aujourd'hui, on nous enquiquine, par exemple, avec cette histoire de la Syrie et des départs pour le djihad. On est très emmerdé si on songe à la guerre d'Espagne, par exemple. Mm. C'est-à-dire, tout à coup, voilà qu'on coince des jeunes dont, évidemment, l'idéologie, qui nous est d'ailleurs pour ainsi dire inconnue, puisque nous ne la connaissons qu'à travers la presse, mais enfin, mettons qu'on lui fasse confiance. On n'a pas une sympathie folle pour cette idéologie, néanmoins, voilà des jeunes qui vont se battre contre une dictature, alors avec des idées qui sont les leurs, mais on voit bien qu'on est dans un temps où, vu qu'il n'y a pas d'idéologie unificatrice, nous sommes coincés, on est dans un rapport à toutes ces choses, disons, ambiguës, ce qui n'était pas le cas de Picasso.
Le charnier est refusé, hein.
Oui,
il n'y a que Guivi qui a écrit un poème, mais après c'est.
Oui. Non, mais, c'est bien sûr, mais en tout cas, tu vois bien.
Oui, lui, il a porté.
C'était possible et ça pouvait avoir un écho aussitôt. Et alors, est-ce que justement, tu vois, je pensais à ces deux tableaux que je citais tout à l'heure, tu vois, les deux tableaux de toi qui sont là, que ce soit l'exorde ou la fouille, le sens qui mangeait, c'est que, avec. Pour reprendre cette chose sur Picasso, je ne cherche pas, je trouve, mais la dépouiller du contexte formel dans lequel on la met toujours. Puisqu'on suppose à cette phrase, peu importe d'ailleurs son contexte, mais on la charge d'un contenu, disons, de décision formelle. C'est-à-dire cet homme aurait été capable d'inventer formellement. Voilà. Oui. On ne s'imagine pas, on ne pense jamais qu'il parlait peut-être de contenu, en disant « je trouve », ou d'adéquation de l'un à l'autre. Mmh. Et que donc, du coup, on pourrait dire que dans
plus,
la fouille...
Bien sûr, de contenu et de forme. Et en plus, quand on dit « quand c'est asséné, je ne cherche pas, je trouve », c'est comme si on trouvait une fois. C'est comme si c'est trouvé l'idée, ça va être revenir. Or, c'est un déploiement. C'est une façon de faire pousser un tableau. Donc, c'est trouver... ne serait-ce que la formulation, c'est là où on est... Ça produit une illusion grammaticale. C'est je trouve comme si c'était paf, ça y est, j'ai trouvé, j'ai gagné, j'ai touché le loto. Quoi.
Oui, on rentre à la maison.
Et on rentre. Donc il y a toujours cette idée, quel est votre concept ?
Oui.
Comme si ce n'était pas le temps d'une conception.
Alors on enfonce sur le clou. Tu vois. Est-ce que par exemple, pour poser une question tu vois, très extrêmement simple, est-ce que peignant un tableau comme la fouille, où justement quelque chose est trouvé du point de vue du contenu et du point de vue de la forme, c'est-à-dire où la grande forme ancienne de la crucifixion, et là peu importe qu'elle soit celle de Grunewald, etc.
Oui, mais ça me travaillait depuis longtemps et je ne trouvais pas. Et là c'est inavouable, donc je vais le dire avec délectation. C'est en voyant un film à la con à la télé.
Alors,
je dis, je vois un type qui. Je dis, putain, ce con, le type se fait fouiller, il est comme un. Et j'ai dit, donc ça a germé tout ça, après il y a eu d'autres dessins, des trucs, et après il n'y a jamais une idée de départ, c'est les autres tableaux aussi, c'est des... Et après il y a même eu des blagues au milieu du tableau qui ont été extrêmement fertiles.
Oui, mais donc, tu vois, quand ça a pris, en tout cas...
Ça a pris, t'es surpris, tu sais jamais.
T'es pas rentré à la maison, t'es allé à l'atelier.
Non, c'est... non, c'est pas Eureka, c'est comme dirait... c'est mon coucule qui raconte ça... vas-y, c'est continue, vas-y, touré comme un palavas, là. C'est ça la blague. Voilà, continue, t'as pas fini, et puis t'es encouragé, quoi.
Mais ouais. Alors, du coup, si on déplace ça sur.
Et après, tu peux te planter aussi, il y a des tableaux, tu te sens encouragé, à la fin, t'es super content,
oui.
Et après, c'est zéro. Hein.
Oui, non, ça, bien sûr. On n'en parlera pas. Mais justement, du coup, l'autre tableau. Ça devient problématique, enfin, ça demande une discussion, c'est-à-dire le exorde, lui, est dans une hésitation. C'est un tableau qui, alors tu le disais, une sorte d'hésitation cimentée, enfin, je sais plus comment tu le disais, il y a une ambiguïté, alors, est-ce qu'elle est voulue, est-ce qu'elle est transitoire, est-ce qu'elle est... qu'est-ce que c'est, cette hésitation ?
Alors là, je peux pour te répondre...
C'est une hésitation sur la violence, donc sur la guerre...
J'ai recommencé, en fait, comme c'est sur... C'est comme des dessins. Parce qu'en fait, je peins sur fond noir et un fond noir frais. Donc, je commence par soustraction, en creusant. Et donc, dès que ça ne va pas, je peux repasser le fond et recommencer. En fait, j'ai tout recommencé. Le visage, il n'y avait qu'une. Il était, on aurait dû une peinture italienne, enfin, petit maître toscan. un petit chien très jeune, je rigole. Et après, c'était un truc n'importe. Et ça n'allait pas, c'était trop. Et le corps aussi, je l'ai changé plein de fois. Et donc, ça allait jamais. Ça voulait, c'était trop. Eindeutlich, c'était trop univoque, voilà.
Oui, mais je t'enquiquine.
Je dis, des fois, il y a un mot qui me sort en Allemagne parce que je sais pas, je dois être traumatisé. J'étais 6 mois à Beaux-Arts de Berlin. On me disait, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça. Des fois, je réponds en allemand. Mais c'est parce que j'ai lu la Bataille d'Occident.
Non, parce que je parle pas seulement de celui-ci d'Exorde, mais il y en a plusieurs.
Ouais.
Et l'impression, moi, que j'ai, justement, c'est que, enfin, il y a, disons, pour plusieurs de tes tableaux, il y en a plusieurs. Et j'ai jamais eu le sentiment que c'était des séries, puisqu'il y a un procédé contemporain qui peut avoir ses mérites, d'ailleurs, enfin, qui demanderait à être médité un peu sérieusement, qui est qu'effectivement, le phénomène de répétition fabrique quelque chose. Bon. Mais là, il s'agit pas de ça.
Non,
moi, le sentiment que j'ai, c'est que de tableau en tableau, tu cherches quelque chose.
Je vois comment ça marche autrement, c'est la curiosité. Bon, pas par série, par maraude, certainement, puis après,
pas la curiosité, seulement.
Non. Mais voir si ça marche d'un sens, comment ça va marcher au contraire, et comment, même en inversant des paramètres, voir si ça dit autre chose, et comment insister pour en fait maintenir le cap, mais autrement, quoi. Tenir le.
Oui, donc il y a un autre tableau qui est cherché.
Toujours.
Oui, mais je veux dire que, en particulier, parce que la fouille, par exemple, ne me fait pas tout à fait le même effet. Non pas du tout que ça soit une série, là, mais là, on dirait, le sentiment que j'ai avec la fouille, il y a des ambiguïtés, effectivement. Il y a des tableaux plus doux, où le rapport peut être plus
sensuel. Ah non, je pense que la fouille est beaucoup plus radicale, oui, plus simple pour l'interprétation.
Voilà.
Et après, c'est marrant parce qu'il a entraîné. Alors peut-être ça, c'est... Tu sais, je commence la peinture. Et c'est la première fois où il y a eu... Pour moi, c'était assez simple, mais j'ai eu une farandole d'analyse. Enfin voilà, c'était pas d'explication, mais c'était. Mais voilà, mais ça produit ça. Enfin voilà, c'est peut-être pas.
Oui, parce que le sentiment que j'ai avec les exordes, par exemple, qui sont en plus, enfin qui touchent, je trouve chez chacun, enfin une chose très intime, puisqu'au fond, le fait de la piéta, c'est le fait de la maternité, et puis là, ça peut être amoureux, enfin, ça peut évoquer un blessé, enfin beaucoup de choses.
On m'a dit aussi, j'aimais bien un sculpteur qui fait apparaître un morceau de, je sais plus comment elle s'appelait, la sculpture à Pygmalion, enfin Pygmalion qui s'occupe de.
Bah, moi, j'ai
un morceau de statue où il y a une idée de.
Voilà. Moi, ça me fait songer.
Ou de création ou de destruction, en gros. C'est soit le soigner, créer ou détruire.
Oui, mais on dirait presque que tu voudrais que les deux aient lieu en même temps. C'est-à-dire, le sentiment que j'ai, c'est deux choses. Enfin, en y réfléchissant comme ça, au fur et à mesure, et en regardant ces tableaux, les uns après les autres, quand ils apparaissent, je me dis d'un côté, on dirait, alors, est-ce qu'il veut, au sens fort du terme vouloir, c'est-à-dire à la fois consciemment, inconsciemment, enfin, avec tout le sujet moderne, mais est-ce qu'il veut que tous ces sentiments, toutes ces ambiguïtés tiennent dans un seul tableau, d'où peut-être aussi les repentirs dont tu parles, c'est-à-dire ce visage
d'un
petit maître toscan qu'il faut effacer, etc. Comme s'il y avait peut-être une réponse dans un équilibre ultime, qu'un tableau allait dire une sorte de vérité affective sur cette situation, ou alors est-ce que c'est comme Lévi-Strauss aussi, quelquefois je me prends à penser que Lévi-Strauss nous disait, au fond, un mythe, c'est la somme de toutes ses versions, c'est la tension de signification entre toutes les versions, comme si tu cherchais cette tension avec ce tableau-là.
Une immense équation paramétrée, où il y aurait il faut que ça soit juste, oui, il y a... Ça me refait penser à un truc dont je parlais dehors. Oui, que ça permette... Alors, quand tu vois la salamandre, le tableau qui correspond à ça, en beaucoup plus ample, c'est celui-là qui... Tu as à la fois l'évidence d'une présence, et après, c'est... qui dit quelque chose du meurtre ou du sauvetage, et c'est tout. Et que ça soit maintenu comme question, et en même temps, je pense que plastiquement, ça tient... En fait, voilà, je veux tout simplement, avec ces dessins, que ce soit aussi présent qu'une sculpture. Moi, je ne veux pas plus loin. Après, quand il y a des tableaux que je détruis, là, au moment de l'ordre, enfin, de la... Ça, c'est un peu... C'est idiot, mais je m'excuse de parler de théâtre, de la mise en scène des tableaux. Ça, c'est une façon un peu grossière de... Parce que c'est pas, je ne suis pas metteur en scène. Quand tu exposes plusieurs... Quand tu as ton gros tableau, un tableau que j'attends comme le...
comme nous viendrons vous chercher ou comme les fouilles, c'est bien d'avoir d'autres tableaux à côté qui vont venir renforcer le sens ou faire diversion ou pour après encore mieux enfoncer le clou. Et donc ces tables, après je vais les choisir, il y en a peut-être, je vais peut-être en refaire un. Donc tu vois, ça c'est les... c'est mon exercice de sculpture.
Et quand tu cites...
Et en même temps, je veux qu'il ait le maximum. Parce qu'on ne sait pas quand on fait un exercice de... L'exercice, c'est aussi bien le... Comme diraient les collègues, l'exercice d'assesse ou, ou la gamme ou son clavier peut-être un jour bien tempéré. Et peut-être que c'est là, ça peut devenir une fugue. Donc ça peut...
Oui.
On ne sait pas. Voilà, n'importe quoi, la moindre chose peut devenir une aventure de peinture... qui va imposer, enfin qui va déjà donner beaucoup, enfin déjà donner du plaisir de regarder et inviter à voir aussi, et puis imposer un sens, enfin, décider de dire, c'est pas, voilà, hanter autrement le, voilà.
Et genre encore du coup.
Parce que j'aime pas, je suis un peu, parce que j'aime pas dire que la peinture dise quelque chose, mais en même temps elle impose quelque chose. Tu vois, je peux pas faire la comparaison non plus ni avec le théâtre ni avec le.
Oui, mais tu sais aussi, enfin c'est tout le problème, c'est qu'on est piégé, c'est qu'il y a une forme de l'intimidation standard aujourd'hui qui pèse aussi sur la littérature, c'est-à-dire elle aussi, elle ne devrait rien dire. C'est ce qu'on nous recommande en tout cas. Dès qu'un écrivain se met à bafouiller trois machins qui tiennent à peu près, on lui dit
oulala. Non, quand je dis non, mais attends, là j'ai la honte, elle montre, la peinture montre ça. Voilà. Elle montre ce doute-là. Si, si, non. Ouais. Je voulais pas utiliser le vocabulaire.
Oui, mais c'est pour ça que je...
Non, non, ça, elle fait pas semblant. Elle montre, elle donne à voir.
Oui, alors justement, voilà. Sur, tu vois, ce qui me semble illustrer ça, enfin, c'est que tout ça une histoire. Donc, on est pris dans un temps, effectivement, douteux, un peu particulier. Je pensais à la présence du noir dans tes tableaux. Alors, évidemment, on pourrait en parler de plein de manières. C'est vrai, le noir éclaire par moments, enfin, etc., etc. Mais si on en reste au noir, si on ne raffine pas de ce côté-là, si on en reste au noir et à sa présence, justement, il se trouve qu'Exorde, par rapport aux fouilles, est un tableau obscur. Mmh. Et j'ai le sentiment, en partie, enfin, vu de ce côté-là, que dans ta peinture, quelque chose de l'indécision du temps cherche à se décider.
Est-ce que je peux fermement te répondre? On verra dans 10 ans. Parce que ça, c'est un... C'est là. Pour l'instant, ces dessins, cette façon de réfléchir à la forme d'un dessin pour arriver avec la sculpture, ça part en fait d'un. C'est un truc de technique, quoi. Enfin, voilà. Et en même temps, j'ai remarqué qu'il y a certes. Ça me permet d'avoir des précisions qui vont. Et en fait, de composer les degrés de différents niveaux de. On va dire de réalisme, c'est pas au bon sens, hein, mais de vraisemblance. Et donc de rythmer, donc d'attirer, en fait, de ramener la personne à se coller sur le tableau, d'aller scruter le dessin. Donc d'avoir des jeux de...
Oui, mais, voilà. Mais donc mais... ça veut dire que ça réclame de celui qui regarde, du spectateur...
Ah oui, de venir se coller au nez.
Une attention et une
forme. De se coller
au
tableau.
Oui. Pour décider, aussi, d'une certaine manière.
Tu es forcé de rentrer dedans.
Oui.
C'est montrer, c'est de dire à quelqu'un, viens voir. Et tout de suite.
Enfin, si tu veux. Alors, je ne sais pas combien on a de temps, parce que je n'ai pas de montre et je ne fais pas gaffe, mais je pensais à une dernière question. Là, on peut continuer un moment, hein, mais un tableau que tu as cité de toi, nous viendrons vous chercher.
Ah oui, ouais.
Voilà. Alors, justement, il se trouve qu'avec ce tableau qui est... Alors, on avait pensé à projeter les choses, mais d'abord, je trouve qu'avec la lumière, on ne les voit pas, et puis ensuite, c'est compliqué de dire... Bon, donc, c'est un tableau qui est une très grande toile,
un diptyque. C'est un diptyque de 3 mètres de haut sur 2 fois 2 mètres 50, donc ça fait 5 mètres sur 3.
Voilà. Et il se trouve que, donc, dans ce tableau... Enfin, disons que c'est un tableau de guerre, d'une certaine manière, on peut dire.
C'est l'idée d'une race. Ça a commencé, j'avais...
C'était... Oui. Donc il y a une première chose, c'est que c'est d'abord un tableau qui effectivement dit quelque chose sur la guerre aujourd'hui, qui nous dit la guerre, c'est la police. Voilà. C'est-à-dire, ce sont des opérations.
Et de c'était la suite. J'avais fait un premier parce que, alors j'ai un exemple ce qui m'a rassuré parce que quand on regarde, on peut pas faire la chronique, faire un tableau d'histoire tous les jours parce que ça se gamberge. Des fois, il faut être juste comme un tableau, parce qu'en fait, beaucoup de gens ont pris les fouilles pour un tableau religieux, comme un tableau qui porte tous ces symboles. On peut pas en faire changer, inventer une image tous les. Faut être, parce que des fois c'est une gaffe, des fois c'est faut y aller lentement. Et un des premiers
tableau délibérément d'histoire, enfin que j'ai décidé, et j'ai, ça a mis 3 ans à germer, c'était Autain Grenier, il m'avait offert le Meurtre pour mémoire de Denax, et je me suis dit, putain, il n'y a jamais eu de tableau de ça. Et après, donc j'en ai fait, ça a mis longtemps, avec des, voilà, donc j'avais fait. Et après j'attendais, pas pour, parce que voilà, c'est, de, voilà, dire il faut faire un tableau. Alors c'est ce qui était marrant après, c'est que quand je l'ai exposé en 2006, le même mois, il y a eu des émeutes et beaucoup de
grabuge.
De grabuge dans Paris. Et les gens me disaient, ah, putain, t'es fort, t'as pas... Oui, j'ai dit, je suis médium, je peux consulter. Si <c'est bien. rire> T'as pas ce qui s'est passé demain. Oui, bah, voilà. Bon, et, alors que c'était clairement, le titre était aussi volontairement écrit, 17 octobre 61. Voilà, et après je me rappelle plus comment sont venus le. C'est aussi venu de plein de paysages où il fallait des personnages, et puis pour nous viendrons vous chercher. Et en même temps, ça a été concomitant d'autres disgrâces, d'autres rafles. Enfin voilà. Et ce titre. Bah, alors c'est à la fois, c'était d'un souvenir. J'aime bien qu'un titre soit. Pas qu'il soit vague, c'est encore la même chose. Qu'il soit ferme, mais qu'il n'impose pas une. J'aime pas qu'il impose une lecture, qu'il soit. En fait, parce qu'une lecture, même si elle est pour un tableau, parce que les gens. Il ne faut pas que ça rassure. Même un truc, il faut que ce soit ferme, mais pas. Un truc univoque rassure. J'ai pas envie de rassurer.
Et aussi,
il faut faire très, très nuancé, parce que des choses équivoques peuvent aussi être de l'ordre de l'euphémisme. Alors, il faut y aller toujours. Enfin, voilà, c'est quoi. Des fois, je mets 6 mois à... En fait, avec tout, il faut y aller avec.
Mais tu vois, par exemple.
Prudence. Avec des machettes et avec des pincettes. C'est toujours. En fait.
Mais la vie, Prudence, c'est un titre de ce genre-là, effectivement. Ouais, c'est-à-dire qu'avec Prudence, où on voit. Il y a plusieurs tableaux que tu as appelés Prudence, où on voit en général un être un peu petit à travers
qui sort d'un grillage,
voilà, qui sort d'un grillage avec d'autres types de l'autre côté dont on ne sait pas trop s'il l'attrape, s'il les a, s'il s'échappe ou s'il a fait un mauvais coup. Enfin,
c'est ça venait de tout ce qu'on voit comme. Voilà. Parce qu'il y a les. Et aussi, on est aussi maintenant, il y a un nouveau. Enfin, on est hanté par les images de télé, tout ça. Qui, et c'est l'idée de. C'était ça, et puis il y avait.
Mais je veux dire, ce tableau, c'est.
Prudence, je ne me rappelle pas comment ça.
C'est soit une allégorie, soit un conseil.
Oui, après,
on l'entend un peu comme ça. Ouais. Et nous viendrons vous chercher.
Ou un prénom féminin. Et après, il y avait donc l'idée de Prudence, en fait, parce que j'ai fait des regards qui vont dans chaque direction de l'espace du tableau, comme les allégories de la Prudence. Donc c'est ça, en fait, qui a déterminé le nom Prudence.
Oui, mais il se trouve que.
Alors je ne sais pas comment c'est venu en même temps.
Mais c'est comme pour Fouille Exorde. C'est-à-dire, ouais. tu vois bien qu'il y a, comment dire, justement, il y a à la fois un arrière-fond, je ne sais pas comment dire, un archétype culturel, une chose qui nous a hanté, qui a traversé l'histoire de l'art, qui s'est incarné de différentes manières, et puis un saisissement contemporain dans le tableau de cette chose qui fait qu'on peut le lire autrement, puisque ce personnage qui s'échappe, Prudence, ça dit tout de suite quelque chose. Mmh. Mais
bah, il sort de la structure. Oui. Sort d'un grillage qui est la planéité postmoderne, machin, pour voir cette lecture.
Oui. Alors, ça, c'est... Mais nous viendrons vous chercher, justement, ouais. Qui est lié à ce que tu dis. C'est pour ça que je voulais passer par Prudence pour arriver à nous viendrons vous chercher. Il a autre chose.
C'est ce dont je manque encore, parce qu'en fait, j'aimerais bien être teintoré, en sachant que je ne peux pas être teintoré. Et je veux le grand tableau où il y a tout, et qui soit extrêmement à la fois cruel et tendre, comme sont les grandes scènes de bataille de justement là on revient, on peut montrer quelque chose et il reste quelque chose de la tendresse d'un regard, même le regard effrayé et teintoré là, c'est énorme, comme Goya aussi, hein. Voilà, donc c'était j'aimerais bien faire un jour un tableau qui approche avec d'autres moyens, parce que j'ai pas les siens, mais j'inventerai les moyens si je peux. Ça va, ça va, attendez.
Hey, mais non. J'enfonce une dernière fois le clou sur nous viendrons vous chercher. Nous viendrons vous chercher. On peut entendre une forme d'humour éventuellement. C'est-à-dire on voit une opération policière
oui, y a le titre,
et militaire.
C'était la viendrons de Poutine, vous chercher. On ira les chercher jusque voilà. Dans les chiottes.
Exactement. Et en même temps, on peut entendre ça. Donc, voilà. Mais on peut entendre aussi une sorte de phrase que tu adresses
on
à travers le tableau.
Voir le tableau. Ouais.
Voilà, mais qu'on peut entendre même d'une double manière. Elle peut s'adresser aux policiers du tableau ou aux autres.
Ah oui, c'est...
Elle ne signifie pas la même chose. Ouais. Dans les deux cas, ouais. Parce qu'on a du mal à entendre, à part par humour, que tu t'adresses aux victimes pour dire « avec eux, nous viendrons vous chercher ». On n'entend pas ça en voyant le tableau. On entend soit « nous viendrons vous chercher », adressé aux policiers un jour.
Pour se venger.
Et ça fera mal.
Pour vous protéger, voilà. aux victimes. Voilà.
C'est donc un tableau sur la violence politique. Oui, aussi. Bien.
Et tu sais, est-ce que, en plus, dans le Sud, nous disait, quand on était petit, on disait « Oh, tu viens me chercher à l'école hein ?» Ouais. Et après, tu ne me cherches pas, ça, c'est avant la bagarre. Tu vois, le mot « chercher ». Et on revient au « je cherche pas, je trouve ».
De la toile, d'accord. Oui, on peut juste parler. Dominique proposait d'un dernier tableau qui est là, donc et qui est en plus extrêmement beau et qui ça me touche particulièrement puisqu'il est lié au livre, comme tu l'as raconté ce matin. C'est donc TDLT, donc l'acronyme de Tristesse de la Terre, puisque Pierre Bravo-Gala, donc un ami commun pour le tirage de livre, donc de Tristesse de la Terre, le dernier livre que j'ai publié, t'avais demandé, et moi aussi, de faire une série de dessins à partir du livre, pas à partir du livre, enfin bon,
avec le livre.
Voilà, avec le livre. Et du coup, donc un certain nombre de choses assez différentes sont venues, mais notamment quelques paysages qui ont à voir avec le TDLT qui est là. Comme tu disais, je crois ce matin, je ne sais plus comment tu disais, que ça a été l'occasion du coup pour toi, enfin de faire venir ce.
Bah déjà, je te remercie de m'avoir fait un stage intensif. De m'avoir offert un stage intensif d'aquarelle. Et que après, j'ai eu. En fait, ça. J'étais assez anxieux parce que. Illustré, donc j'avais pas envie que ce soit illustratif. Alors, il y a eu deux chemins, en fait, j'ai maintenu les deux. Donc, ça m'a donné même pour l'autre série de dessins des. Soit c'est un bonhomme qui. C'est le. Comment ça s'appelle ? C'est un nom italien. En fait, c'est un truc très, très connu dans le tir. Il y a un nom, c'est pas le pizzaiolo, c'est le pia. Je suis pas bon en italien. C'est l'histoire de l'enfant qui, pour prévenir de l'imminence d'une invasion, va prévenir le Sénat s'enlève l'épine qui le faisait souffrir une fois qu'il a prévenu. Et pas avant, donc c'est la figure de l'enfant donc dans la guerre, et un enfant seul, enfin voilà. Puis comme c'est pensé à une sculpture qui est au musée de Bologne, et donc c'est en même temps, c'est un enfant qui regarde le sol, enfin voilà. Je pensais à une idée que j'ai déjà, enfin, qui est déjà venue dans pas mal de tableaux. Donc il y a eu pas mal de dessins qui ont été faits à partir de ça, et tout en faisant ça, je faisais des tests de couleurs, donc des rythmes, et c'est devenu des paysages. Je me suis dit, tristesse de la... Ah, tiens, un paysage désert, et ça a donné, je sais pas, 80 dessins. Enfin voilà, puis ça, à chaque fois je croyais que c'était la même chose, et puis ça devenait différent, puis il fallait faire attention. Donc une fois sur deux, c'était raté, cette poubelle, et après, c'est devenu captivant, parce que c'est ça, il y avait un appétit de... Enfin voilà, il y avait des nuances nouvelles qui... C'est aussi c'est ma joie les nuances. Je me suis dit, il faut voir comment ça tient en grand. Et donc j'ai commencé. Là, c'est un des premiers tableaux. Donc je te dois ce tableau à toi et à Bravo Gala. Parce que c'est aussi la suite d'autres tableaux que j'ai fait. Mais ça, voilà. Donc je voulais amener celui-là. Pour la petite histoire.
Oui, alors, sur ce tireur d'épines qui, lui, n'est pas là, le tireur d'épines, en fait, si je me souviens bien, c'est une sculpture romaine qu'on trouve au musée du Capitole.
Il y en a plein.
Oui, mais c'est la plus ancienne, c'est celle-là. C'est l'origine, c'est cette sculpture romaine qui a été un modèle ensuite à la... Oui, non, c'est le, je me souviens bien aussi. C'est le tireur d'épines, la traduction. Ouais. Bon, j'ai oublié comment on le disait en italien, c'est une sorte de contraction.
C'est l'enfant qui retire toutes les épines à la couronne du Christ.
Alors ensuite, il y en a une version très belle aux Offices, si je me souviens bien. Il y a une version je crois, de Donatello, pareil, qui est en bronze, elle. Donc, on revient à quelque chose dont on parlait tout à l'heure. La croix dans Fouille, la Pietà dans Exhorte, c'est-à-dire les sujets de peinture. Qu'est-ce que c'est, en fait, ça, un sujet de peinture?
Alors, quand tu décides de faire quelque chose de...
Pourquoi des types, pendant des siècles, s'acharnent à vouloir être celui? Alors, tu disais, il y a deux choses. J'aime beaucoup le « je voudrais tout foutre dans un tableau », toutes les contradictions dedans. Ouais. Bon.
Ah, peut-être c'est des fausses routes. Hein. Peut-être que là où je suis vraiment peintre, c'est quand je fais un portrait ou tout simplement un paysage.
Peu importe.
Aussi, hein, c'est les... En même temps... C'est à la fois comme un standard de, ou un thème, parce qu'il y a aussi des variations dans la musique classique ou un standard de jazz. Voilà, c'est imiter l'invention, c'est imiter un standard et en fait le faire complètement autre chose. Ou, c'est sur un thème et en plus on peut le sortir de... C'est pas seulement
oui,
une histoire. Et après on peut le déjouer. De toute façon, si c'est, soit c'est ça, soit c'est des trucs de pub. Même il y a des images, là j'en parle pas, il y en a pas, mais il y a aussi, il peut y avoir une image de pub que tu as envie de déjouer les images reçues, changer des habitudes et voir comment. C'est une... Et à partir du.
Oui, mais qu'est-ce qui fait le degré d'excitation, par exemple, dans la fouille, quand tu nous dis là, je vois ça dans le film et.
C'est aussi le plaisir, il y a aussi un plaisir de rire. Il y a un côté de dessaler, tiens, je vais leur dessaler le. Comme tu as dit, hein, c'est comme. Je suis jaloux de Flaubert qui fout le perroquet à la place de la colombe du Saint-Esprit. Génial, ça, dans la fin du Cœur Simple. Il a fait un tableau, lui aussi, il est rentré au Louvre, là. Enfin, au Vatican. Et c'est génial, là. C'est une joie de. Enfin, je sais pas. Mais après, ça suffit pas. Il faut plein d'autres choses. Ça peut pas être un seul point de départ. Et. Enfin, voilà. Je sais pas si j'ai répondu. Mais non, j'ai répondu là, oui, mais après, dans le travail, après voir si ça tient, comment. Sinon, on verra à la fin.
Hein. Ouais. Comment dire, sur ce tireur d'épines, en même temps, ce que tu dis à un moment, c'est. Il te touche en lui-même.
Ah oui, parce que tu dis, j'ai adoré cette sculpture. Je connaissais pas l'histoire, j'ai adoré cette sculpture à Bologne. Et c'est un. Et en fait, c'est pas loin, parce qu'en plus, je l'avais associé à. Mais après, il y a plein de trucs, mais c'est aussi bien. C'est un enfant qui.
Alors, il y a aussi. Dans le...
C'est pas loin de Hercule qui tue le serpent aussi, tout ça. Mais aussi, c'est tout simplement un quelqu'un qui scrute le sol. Tu mets une rivière, ça devient Narcisse. Tu mets. Ouais, tu vois, c'est... Tu sais, les formes sont simples, donc il suffit de changer un élément, ça devient. Ça, c'est passionnant. Tu changes un truc infime et ça peut vouloir dire plein de choses d'autres.
Oui. Mais l'épine. Si on ne change pas les
chardes. Je préfère ce nom.
Voilà, les chardes. Ouais. C'est ce que tu disais aussi, que tu as raconté tout de suite, du coup, lié donc à une bataille, cet enfant qui prend comme ça, qui d'abord n'a pas pris le temps et qui ensuite essaie de s'arracher cette petite épine de pierre dans le pied au Capitole.
Eh bien. C'est la détresse de quelqu'un seul, ça je trouve ça absolument touchant. C'est aussi une façon de, parce qu'on parlait de souvenirs, de tableaux de qui en fait sont soit des tableaux de qui servent à chanter le vainqueur, donc tous ces tableaux de commande, soit des témoignages de guerre, donc de Goya, ou alors des réflexions, comment faire un monument à, ou comment même Guernica est un monument contemporain de la destruction de Guernica. On va faire un témoignage, mais il y a aussi tous les d'autres témoignages. Et alors, donc il y a aussi les images qui hantent. Nous on n'a pas vu, mais on a vu plein de films. Répondre à un truc, un tableau. Il y a un film de. Tu vois là je dis tableau. En plus j'étais jaloux en peintre, il y a plein de trucs dedans. Le Requiem pour un massacre de Klimov. Il décrit tous les ouradours qu'il y a eu en Ukraine, et les massacres systématiques. C'est un film exceptionnel où à peu près il y a toute la vie qui passe, toutes les sensations, même une histoire d'amour, la contemplation, des scènes de magie, des trucs de chamanisme, l'horreur totale de la guerre, l'idée de vengeance, de tout. Et ben, ça, t'as envie d'en faire quelque chose. Alors, peut-être que ça m'a parlé aussi. Peindre un enfant qui... Peut-être aussi. Je sais pas, là, tu. Je vois pas la.
Non, c'est sur cette idée justement, tu vois, là, que tu réponds.
Mais c'est répondre à des choses. On répond à ce qui. Soit qui te hante comme un truc qui est effrayant, soit à ce qui te. Ce qui te. Ce que tu as pris pour vivre avec toi, parce que c'est des faits. C'est même pas que tu fais exprès de t'en rappeler, c'est de la mémoire, elle a son goût, et l'image, le souvenir d'un tableau ou d'un film, ça fait partie de ma vie. J'y pense comme ça, donc il faut en faire quelque chose. C'est des. Bah, c'est des fantômes généreux, certains souvenirs de tableaux, de films ou de livres. Voilà.
Ça me paraît bien finir ces fantômes généreux.